J'irai plus totalement cette
étude. Moi, j'ai essayé de vous confier au cas comme là. Je pense que, en combinant les deux, ça suffit de précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de la semaine de Parole aux auditeurs. Le nombre très limité d'auteurs présumés traduits en justice pour les violences graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en RDC n'a fait qu'encourager la commission de nouvelles violations graves qui perdurent jusqu'à ce jour. Ces déclarations sont celles de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme suite à la publication le vendredi dernier du rapport du projet Mapping concernant les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commise entre 1993 et 2003 en RDC. Vous l'avez peut-être deviné, Parole aux auditeurs de ce lundi est axé sur la lutte contre l'impunité, particulièrement l'impunité relative aux auteurs présumés des violences sexuelles. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, au moins 1244 femmes ont rapporté avoir été violées au cours du premier trimestre 2010, soit près de 14 viols par jour en moyenne. Plus d'un tiers des viols ont eu lieu dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, d'après le HCR, deux provinces infestées des groupes armés qui commettent toutes sortes d'atrocités depuis plus d'une décennie. Les cas de viols sont récurrents en RDC. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, ces cas ne sont pas seulement enregistrés dans les zones où sévissent des conflits armés, mais aussi dans les zones considérées comme sécurisées. Selon vous, que faire pour encourager la dénonciation de ces cas et aussi comment mettre fin à l'impunité? Nous avons invité pour vous le sénateur Polycarpe Mongoulou, il est ancien procureur général de la République. Nous aurons également au téléphone M. Étienne Moulouba, avocat général de la République. Cynthia Bachizi, Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Moulouba à la présentation.
Réagissons en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre les violences sexuelles, notamment contre l'impunité relative aux violences sexuelles. Nous avons déjà au bout du fil notre premier invité. Il s'agit de l'avocat général de la République, Monsieur Étienne Moulouba. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que vous êtes avocat général. Est-ce que souvent vous enregistrez des cas de personnes qui viennent se plaindre pour des violences sexuelles?
Merci de m'avoir associé à cette émission. Mm-hmm. Je dois répondre que, au titre du représentant du parquet, je peux dire que oui, les parquets enregistrent souvent des cas de victimes, des plaintes de victimes de violences sexuelles.
Mmh. Et souvent, par exemple, les ONG de défense des droits de l'homme disent souvent qu'il n'y a pas un aboutissement à tous ces procès et que vraiment le fait qu'il n'y ait pas des auteurs qui soient punis, est-ce que vous êtes de cet avis-là, que la plupart des cas qui sont amenés au niveau du parquet, on n'arrive pas à punir les auteurs comme il se doit?
Oui, madame. Le parquet du ministère public qui dispose de l'action publique, donc l'action de la société pour réprimer des faits délictuels, ne doit pas se contenter de posséder cette action publique. La mission essentielle du ministère public, c'est d'exercer cette action publique, c'est-à-dire traduire devant le juge les auteurs des infractions afin qu'une peine leur soit appliquée. Alors, il y a certainement une marge, ça je dois dire, entre les plaintes, les dossiers qui sont ouverts au parquet et les juridictions. Le nombre de fois que les juridictions ont été saisies par les parquets pour voir les auteurs de violences sexuelles être punis sévèrement comme l'exige la loi. Mmh. Mais, évidemment, on peut passer toute une émission pour expliquer pourquoi il y a des écueils, il y a des difficultés de part et d'autre. Je ne peux pas mettre la charge, n'est-ce pas, du déficit se monte sur le parquet.
Nous allons écouter dans quelques instants des témoignages des auditeurs, comment eux ils perçoivent cette lutte contre ces violences sexuelles, mais aussi comment ils réagissent face à cette impunité qu'ils ont constatée dans la province. Nous aurons des témoignages d'un moment à l'autre des auditeurs qui se sont inscrits nombreux pour pouvoir participer à cette émission. Je rappelle le numéro de contact, c'est le 081 890 63 15, le 081 890 63 15. Il suffit que vous appelez, vous donnez votre nom, la ville d'où vous appelez, sans oublier votre numéro de téléphone, pour que nous puissions vous rappeler. Et à l'entrée dans ce studio du sénateur Polycarpe Mungulu, bonjour.
Bonjour, madame.
En ligne, nous avons M. Étienne Moulumba, qui est avocat général de la République. Ensemble, et nos auditeurs, nous allons échanger sur cette question de violence sexuelle, comment lutter contre l'impunité. Mais d'entrée de jeu, déjà, l'avocat général de la République nous a expliqué comment ça se passe à ce niveau. Nous lui demandons de pouvoir rester en ligne, qu'il puisse aussi suivre les témoignages des auditeurs. Mais entre-temps, nous allons poser aussi quelques petites questions au sénateur, notre invité qui est dans ce studio. Il est vrai que vous êtes ancien procureur général de la République, mais vous êtes aussi sénateur. Il y a une nouvelle loi sur les violences sexuelles. C'est une loi qui a été votée et promulguée dans les années 2006. Et déjà, au niveau des structures, ils pensent que cette loi a certaines lacunes. Quelle est la procédure qui pouvait être mise en place pour pouvoir peut-être restructurer cette loi?
Contrairement à ce que vous pensez, moi je ne pense pas que c'est la faute à la loi.
Mm-hmm.
C'est la faute à ceux qui doivent appliquer la loi. On ne peut pas prétendre réformer directement la loi alors qu'on ne l'a pas encore complètement appliquée pour que cette loi fasse sortir cette paille. Moi je pense plutôt que le problème le plus crucial dans notre pays, c'est le problème de la faiblesse des institutions. La faiblesse des institutions, dans l'ensemble, réjaillit sur la faiblesse de l'appareil judiciaire. Et l'appareil judiciaire, malheureusement, malgré les textes qui l'organisent, apparaît aux yeux de l'opinion et parfois même des dirigeants comme un simple service, alors que c'est un véritable pouvoir. On ne considère pas ce qui anime l'appareil judiciaire, comme on considère les ministres, comme on considère les députés ou les sénateurs, comme on considère les services de la présidence de la République. Et ceux-là même qui animent cette structure de la justice se considèrent à tort comme des fonctionnaires. Ils vont même jusqu'à faire des grèves comme des fonctionnaires, alors que c'est tout un pouvoir. Alors, lorsque on n'est pas considéré comme un pouvoir, on ne peut pas discuter d'égal à égal avec les autres pouvoirs, faire valoir son point de vue. Ce qui réjaillit effectivement sur les services, parce que dans les services, il y a les causes spécifiques qui font que l'appareil ne fonctionne pas. Et lorsque l'appareil ne fonctionne pas, la conséquence, c'est l'impunité. Alors, l'insuffisance des moyens matériels, l'insuffisance des moyens financiers et l'insuffisance des moyens humains fait que le territoire national n'est pas complètement couvert par les services judiciaires. Or, l'exécutif, vous pouvez aller jusqu'au village. Le chef de village, c'est déjà l'exécutif. À ce niveau-là, avec la réforme qu'a connue notre pays, il n'y a pas celui qui applique la justice. Dans l'État, ça existe parce que les chefs de village étaient en même temps, des jugements. À ce niveau, les jugements continuent. Aujourd'hui, avec les tribunaux de paix et les autres, on ne peut pas tolérer la même chose. Des chambres de tribunaux, de groupements, de secteurs et tout ça n'existe pas. Donc, des pans entiers de la justice, plutôt du territoire national, ne sont pas couverts par les services judiciaires.
Voilà autant de problèmes, donc il faudrait que la justice puisse arriver le plus proche
de la
possible
de la
population, des justiciables. Nous allons suivre le témoignage quand même des auditeurs, ce qu'ils pensent de ce sujet. Nous gardons toujours en ligne M. Étienne Moulumba, qui est avocat général de la République, et M. Polycarpe Mungulu. Nous allons suivre Christine Destriver, qui nous appelle à partir de Bukavu. Elle est très active dans la lutte contre contre les violences sexuelles au sud Kivu.
Parole aux auditeurs.
Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voudrais justement rebondir sur ce que vient de dire, je pense que le sénateur qui est en studio avec vous, pour dire que d'abord, le problème que nous avons par rapport à l'impunité, on doit d'abord parler de la décentralisation de la justice. Parce que lorsque vous imaginez une province comme le Sud Kivu, ou par exemple Shabunda, Fizi, etc., qui sont géographiquement très, très éloignés, et ils peuvent se référer qu'au tribunal de grande instance de Bukavu, vous voyez déjà qu'il y a un autre problème, qu'il y a déjà un gros problème. Et puis, on doit aussi parler aujourd'hui, par exemple, de tout cet argent qui est mis pour la réforme de la justice. Mais on doit aussi se poser la question pour savoir comment est utilisé cet argent. Nous savons que cet argent, en général, se termine dans les administrations, dans les frais de personnel expatrié, et en final, il ne reste que les miettes. Donc je pense que ceux qui font le travail sur terrain, il devrait aussi y avoir des budgets qui puissent les servir. Je voudrais aussi dire que, parlant ici de la partie orientale de la République démocratique du Congo, je prends le Grand Kivu avec le Maniema. Beaucoup de bandes armées étrangères ont commis des violences sexuelles sur notre territoire. Est-ce que le tribunal congolais a autorité, disons, pour juger des étrangers? Et jusqu'à présent, si mes souvenirs sont bons, on n'a entendu aucun mandat international contre tous ces présumés coupables. Donc vous voyez que le problème, il est énorme, quoi. En plus, les victimes qui viennent ou qui voudraient porter plainte, les procédures sont très très longues et comme il y a l'impunité, il y a beaucoup d'ingérence en cause de la faiblesse ou de l'absence à certains endroits de l'autorité de l'État. Donc ces victimes ont peur de porter plainte à cause des représailles.
Mmh. Et dites-nous, quelles sont vos propositions pour pouvoir lutter contre cette impunité?
Il y a d'abord la décentralisation de la justice et au niveau de la communauté internationale. Ce que nous, on souhaiterait d'abord, c'est qu'il y ait, suite au rapport qui vient d'être publié, qu'il y ait un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Parce que sinon, dans 10 ans, on continuera à faire des rapports qu'on va ranger dans nos tiroirs et il n'y aura aucun impact. Justement, maintenant, on doit profiter de ce rapport et passer à l'action. On doit lancer des mandats internationaux sur certains coupables qui vivent librement en République démocratique du Congo, parce que ce sont les gros poissons qu'on doit rattraper. À cause de cette impunité, aujourd'hui, les viols domestiques, par exemple, je parle de la ville de Bukavu, ont aussi pris l'ascenseur et prennent des proportions épidémiques.
Mmh. Donc on regarde tous ces progrès.
On doit agir au niveau national et international, parce qu'il faut reprendre un peu la genèse de la guerre. Nous n'avons pas affaire à une guerre congolo-congolaise, c'est une guerre que la communauté internationale nous a imposée ici au Congo, et nous sommes que les victimes. Les raisons de la guerre, donc on doit d'abord voir les causes de tout ça.
Merci beaucoup Christine Destriver pour votre intervention à cette émission. Vous pensez qu'il faudrait qu'on puisse vraiment décentraliser la justice, qu'on puisse arriver des instances assez appropriées à côté de la population, aussi qu'on puisse à voir dans quelle mesure écourter la procédure, parce que vous pensez que les procédures sont tellement longues. Merci Christine. Nous allons prendre Pompon de Likati. Bonjour Pompon. Pompon? Nous avons perdu Pompon de Likati.
Parole aux auditeurs.
Nous allons redonner la parole à Monsieur Étienne Moulumba, qui est avocat général de la République. Vous avez suivi notre première auditrice, qui s'agit de Madame Christine Descriver, qui a en fait montré quelles sont les difficultés qu'elle rencontre au fait que la justice ne soit pas aussi proche des justiciables.
Oui, j'ai bien suivi et je partage son opinion, mais j'apporte quand même quelques précisions. Parler des longues procédures va justement à l'encontre du vœu du législateur du 20 juillet 2010. Parce que lorsque vous lisez l'article 7 bis, ou l'article 1er de cette nouvelle loi, il est dit que l'enquête préliminaire, c'est-à-dire tant au niveau de l'OPJ au niveau de l'officier public doit durer au maximum un mois. Et dans un mois, la juridiction doit être saisie et la juridiction elle-même dispose de 3 mois au maximum à partir de sa saisine pour prononcer la décision. La loi a mis en place un dispositif judiciaire, médico-judiciaire, je dirais, cohérent. Mais il faut avouer que ce dispositif ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Et il faut une cohérence entre l'action de l'OPJ, qui doit saisir l'officier de public dans 24 heures, ça veut dire qu'il y a un problème de proximité. L'OMP doit saisir le juge au plus tard dans un mois. On dit encore, l'OMP doit requérir d'office un médecin, un psychologue pour la prise en charge médico-psychologique de la victime. Mais il faut qu'il soit dans un milieu où il peut trouver un médecin, un psychologue disponible. Donc le dispositif légal ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Donc, normalement, c'est une loi, j'allais dire, une procédure exceptionnelle qui ne pouvait prendre que 3 mois. Mais malheureusement, parce que ce dispositif légal n'est pas appuyé par le dispositif matériel, qui serait, il ne fonctionne pas.
Oui, et heureusement que nous avons un sénateur dans notre studio. Que répondez-vous face à toutes ces difficultés d'application de la loi?
Oui, les difficultés de l'application de la loi résultent tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manque de moyens. On a mis en place une loi, mais les moyens pour faire l'application de cette loi n'existent pas. Quels sont d'abord les moyens? Les moyens, c'est-à-dire ce qu'a dit Mme l'écrivain tantôt, décentraliser la justice. Moi, je ne parlerai pas de la décentralisation de la justice, mais le redéploiement de la justice. Il faudrait les redéployer partout où besoin se fait sentir. Alors, lorsque la justice sera partout, avec ses représentants, ses auxiliaires, parce qu'aujourd'hui, dans les groupements, vous trouvez à peine 3 policiers. Et ceux-là ne leur demandaient pas grand-chose pour qu'ils puissent réprimer tout ce qui se passe à son niveau. Donc, testons d'abord la justice partout, mettons les moyens qu'il faut pour pouvoir fonctionner, il faut des véhicules, il faut des papiers, il faut tout pour que ça puisse fonctionner. Il faut ensuite le système pénitentiaire. Parce qu'en fait, on parle de la justice, mais on n'a même plus de prisons. Les prisons ont commencé à s'effondrer. Et depuis l'indépendance, on n'a pas construit une telle prison. Donc, c'est tout un tas de choses qu'on devrait mettre en place pour que ça fonctionne.
Mais entre-temps,
on ne peut pas tout simplement incriminer la loi. Parce qu'on a tendance à croire que chaque fois qu'une situation se présente, il suffit de voter une loi et tout marche. Non, ce n'est pas comme ça. Mettons l'ensemble des structures au point, la loi va se faire appliquer. Voilà ce qu'il faut.
Mais entre-temps, quand on regarde toutes ces difficultés, de toutes ces lacunes, c'est la population qui en souffre.
Mais bien sûr, c'est avec nous tous, c'est-à-dire ce qu'il faut avec notre gouvernement, avec tout ce que nous avons comme moyen. Mettons-nous à l'œuvre. Si nous voulons mettre fin à l'impunité, mais commençons par mettre l'infrastructure en ordre. Et c'est là la volonté politique. Mais commençons pas par engager déjà, parce que si nous engageons déjà, nous ne savons même pas où les loger, nous ne connaissons pas les bureaux dans lesquels ils
sont. C'est arrivé avec ces derniers magistrats qui ont été recrutés, et il y a des magistrats qui ne savent même pas dans quel bureau ils vont s'asseoir.
Même pas une chaise, même trouver une chaise, ça fait un problème. Donc, commençons là où il faut commencer. Ce sont des choses sur lesquelles on devrait bien réfléchir. C'est il faut organiser les journées de la justice pour qu'ensemble on définisse les priorités. Et dès qu'on définit ces priorités, on travaille et petit à petit on met en application. C'est ça ce qu'il faut faire.
Nous allons écouter d'autres auditeurs qui veulent s'exprimer à ce sujet. Serge est au bout du fil, il nous appelle à partir de Bougna. Et surtout n'oubliez pas le numéro magique, le 081-890-6315, pour que vous puissiez vous exprimer et donner votre point de vue dans cette lutte contre l'impunité.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Serge. Serge? Serge est à Bounia. Bounia, c'est dans la province orientale où vous nous suivez sur 104.9 MHz en FM, bien sûr. Serge, encore une fois, bonjour. Il y a des problèmes de liaison avec Serge de Bounia, mais Augustin est là, il est à Kindou dans la province de Maniema. Bonjour Augustin. Augustin ?
Oui madame.
Bonjour, heureusement qu'on a pu vous garder parce que là on a vraiment des problèmes de liaison avec nos auditeurs qui veulent participer à cette émission. Aujourd'hui nous parlons de la lutte contre l'impunité. Vous êtes à Kindou. On fait un cas particulier sur l'impunité qui est liée en cas de violence sexuelle. À votre avis, que faut-il faire pour mettre fin à cette impunité-là?
Oui, merci madame. Je pense que la première des choses, il faut d'abord savoir que la justice est une institution à part comme d'autres institutions dans notre pays. Et ce que nous remarquons, c'est que cette institution qui est la justice n'a pas vraiment une autonomie de fonctionnement. Il y a toujours des injonctions qui viennent de passer par là pour exercer libre sa fonction. Si la justice était libre et autonome, je pense que peut-être tout allait marcher. Alors, il y a des impunités, pourquoi dans notre pays? Parce que, madame, les gens qui travaillent dans la justice, ils ne sont pas vraiment libres d'exercer leurs fonctions. Des fois, même s'il y a des cas qui peuvent sanctionner, vous remarquerez qu'il y a de certaines personnes qui s'impliquent pour ne pas donner une bonne justice à cela. Mm-hmm. Comment je demanderais simplement que, quel que soit, nous savons que la justice n'est pas libre, et quand la justice n'est pas libre, on ne peut pas aussi juger bien les impunités. Donc il faut commencer d'abord à laisser la libre transparence à la justice, que la justice, notre justice soit libre, soit autonome, je pense qu'on peut trouver le moyen de travailler dans la justice. Or, les Américains sont en train de remarquer dans notre justice ce que je dis par rapport à quoi. Lorsque vous êtes un agent qui travaille, un magistrat, qui n'a pas le moyen, madame, un magistrat qui manque de cas, il faut s'acheter à la fin du mois, il faut faire un sac de foufou ou de riz. Comment est-ce que travaille bien? Comment est-ce que juger la justice? Comment est-ce que vous êtes une bonne affaire? Il faut aussi doter les moyens au nouveau magistrat, doter les moyens à la justice. Et quand un juge est bien payé, quand un juge est bien rémunéré à la fin du mois, moi, je pense qu'il n'y aura plus l'impunité dans notre pays. Il y aura quand même ce qu'on appelle la conscience pour bien travailler, madame.
Mais néanmoins, il faudrait souligner que les magistrats, quand même, leur situation a été plus ou moins revue. Il y a même certains qui ont bénéficié de véhicules. Donc, est-ce que vous pensez que c'est nécessairement lié au fait qu'ils ne sont pas payés correctement?
Bon, ce n'est pas du tout qu'ils ne sont pas bien payés correctement. Je dirais ceci. Même si dans d'autres niveaux, il y a des gens qui sont bien payés, mais ils ont la vie de la malhonnêteté, madame. Parce que vous êtes malhonnête, même si vous êtes bien payé, et vous ne pouvez rien faire dans ce pays. C'est une question de la conscience, éveil de la conscience, madame. On doit savoir que lorsque nous avons une telle affaire, un tel problème, on doit juger éthiquement l'affaire. Même si vous êtes bien payé, même si vous n'êtes pas bien payé, d'abord, on doit être juste envers notre pays. On doit juger dignement ce qui doit être jugé, madame.
Donc, c'est une question de confiance. De confiance professionnelle, c'est un peu ça ce que vous voulez nous dire. Il faut être conscient de savoir ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever la situation. Merci Augustin, vous êtes à Kindou dans la province du Maniema. Je rappelle que nous avons toujours M. Étienne Moulumba au bout du fil, l'avocat général de la République. Aujourd'hui, vraiment, nous avons des problèmes de liaison avec nos auditeurs. Mais quand même, comme Monsieur l'avocat général nous a dit qu'il n'avait pas assez de temps à nous accorder, il nous a tout juste donné 30 minutes pour conclure. Quelle est sa conclusion à lui au regard de toutes les difficultés que connaissent les populations pour pouvoir accéder à une justice équitable? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Merci, madame. Ce que je peux dire, c'est que, d'une manière générale, nous déplorons tous le mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire, que ce soit du point de vue des ressources humaines, du point de vue des structures d'accueil, du point de vue des moyens d'action. C'est un fait évident. Cela ne concerne pas seulement les infractions de violence sexuelle, n'est-ce pas? Il y a aussi beaucoup d'autres. Mais ce que nous voulons dire, c'est que cette loi du 20 juillet 2006 est arrivée pour répondre à une situation sociale qui était désespérée. Et cette loi avait l'ambition de combattre la violence sexuelle qui était devenue un véritable fléau dans notre pays. Mais, 4 ans après, vous semblez dire, d'une manière générale, les violences sexuelles ne sont pas éradiquées.
Non, vraiment, on enregistre toujours, presque chaque jour des cas, c'est pas seulement dans les zones où il y a des conflits armés, mais même dans les zones sécurisées.
Ça veut dire que entre la volonté du législateur et les résultats sur le terrain, il y a un fossé. Nous n'allons pas jeter la pierre à qui que ce soit. Notre rôle de magistrat, surtout magistrat du parquet, c'est de poursuivre les auteurs d'infraction, de traduire en justice et de punir. Et nous allons toujours, à notre niveau, pousser nos collègues qui sont au contact avec ces infractions, avec ces faits, de faire le maximum qu'ils peuvent pour répondre aux vœux du législateur. Voilà.
Une dernière question, toujours pour savoir, parce qu'il y a des auditeurs, il y a par exemple l'auditeur Augustin qui a simplement dit que c'est par manque de moyens ou bien par manque de volonté que des fois la justice n'est pas dite, mais vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe pour qu'enfin le justiciable puisse se sentir à l'aise et puisse avoir de nouveau confiance à la justice?
Bien, madame, je ne vais pas revenir sur le manque de moyens, les faiblesses de l'appareil judiciaire dont on a parlé, moi je crois qu'elles sont évidentes. On peut revenir sur l'homme. Là, il faut bien sûr travailler, parce que la magistrature, c'est pas seulement l'argent, comme vous dites, les moyens, les véhicules, tout ça, c'est surtout aussi l'homme, le magistrat, qui doit obéir à une déontologie qu'il doit connaître et qu'il doit respecter. Alors là, comme a dit Augustin, un magistrat, c'est pas cupide, malhonnête, même si vous lui donnez des millions, mais comme il est habitué à chercher l'argent, il travaille pour avoir l'argent, il va pas s'arrêter. Il y a une action aussi qui doit être menée du côté de la moralisation de la profession, du côté du respect des règles de déontologie.
À ce moment-là, on peut croire qu'on a que des magistrats cupides, parce que là, il y a des personnes vraiment qui se plaignent.
Non, ils n'ont pas jusqu'à dire cela. C'est des magistrats cupides. Il y a beaucoup de magistrats pleins de bonne volonté. Je crois que nous avons traversé cette carrière pendant longtemps. Nous y sommes restés sans argent. Je crois que c'était par vocation. Nous y sommes toujours.
Merci beaucoup, monsieur Étienne Moulumba, pour avoir accepté notre invitation. Nous poursuivons, quant à nous, notre émission Parole aux auditeurs. Nous allons donner la parole à d'autres auditeurs qui sont aujourd'hui, sans oublier que nous avons dans ce studio notre invité, monsieur Polycarpe Mongoulou, qui est sénateur, mais aussi ancien procureur général de la République.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Tapis vous propose sa cellule de la presse. Des analyses, des explications et un débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et des visuels. La cellule de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. La cellule de la presse, c'est l'actualité vue par ceux qui la traitent. C'est aussi sur le site internet de Radio Tapis, www.radiotapis.net.
Bonjour, maître Chantal.
Bonjour, madame.
Vous êtes ici à Kinshasa, on vous écoute. Que faut-il faire selon vous pour mettre fin à l'impunité?
Tout d'abord, permettez-moi, madame, de dire bonjour à tous les auditeurs de Tapis. Et ensuite, dire ma révolte et compassion par rapport aux souffrances terribles qu'endurent nos populations de l'Est du Congo, dont je suis moi-même originaire, et dire que cette situation-là ne peut pas continuer parce que ça fait déjà un certain temps qu'elle perdure et qu'il faut absolument trouver des solutions pour y remédier. J'aimerais aussi dire que vous savez certainement que toutes les femmes du monde se mobilisent durant la semaine prochaine, du 13 au 17 octobre, pour aller à Bukavu marcher, pour soutenir toutes les femmes victimes des violences sexuelles depuis ces dernières années. Cela étant dit, il y a plusieurs actions menées. Je suis vu ceux qui sont passés devant avant moi et qui ont parlé de la justice congolaise. dont on connaît l'état. C'est vrai que c'est la justice qui est la première concernée par rapport à l'impunité. La justice congolaise, elle est ce qu'elle est. Normalement, il y a deux lois, les deux lois de 2006 qui existent, qui ont quand même mis en place des mécanismes au point de vue procédural et au point de vue du fond, des mécanismes qui permettent à ce qu'on puisse agir rapidement et appréhender tous les auteurs de toutes ces violences-là. Mmh. Malheureusement, les constats qu'on fait, c'est que il y a beaucoup de choses qui restent à faire, qu'il faut faire. Je crois que les autres l'ont dit avant moi, on ne doit pas se répéter, qu'il faut doter la justice congolaise des moyens financiers adéquats pour effectivement être capable de garantir la sécurité des personnes, surtout des personnes. Mm-hmm. Ça, c'est une première chose. Mm-hmm. Par rapport à ça, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que depuis 2002, nous avons la Cour pénale internationale avec le statut de Rome. Mais malheureusement, vous savez, on ne peut agir que pour les crimes perpétrés après 2002. Mm-hmm. Ce qui fait que de 1993 à 2002, il y a quand même un espace libre qui reste là et pour lequel il faudra trouver des mécanismes afin de pouvoir récupérer tout ça par rapport aussi d'ailleurs au dernier rapport de l'ONU qui vient de faire état de toute une série d'exactions commises en RDC de 1993 à 2002. Alors, pourquoi est-ce que les gens réfléchissent? Je pense que peut-être qu'on l'a dit, de sorte de tribunaux hybrides. De sorte des cours pénales spéciales dans lesquelles les juges nationaux congolais vont travailler avec des juges internationaux, de sorte à ce que les crimes commis avant 2002 soient également appréhendés et qu'ils ne restent pas impunis. Donc il y a les deux, voilà, au niveau national, renforcer les juridictions nationales, leur doter de moyens qu'il faut. Et déployer suffisamment des magistrats parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de composition de faits, surtout à l'Est, il y a des magistrats qui ne sont pas là, qui sont un nombre insuffisant, et il faut déjà qu'il y ait suffisamment de magistrats pour qu'on puisse leur confier tous ces dossiers-là, parce que quand vous regardez les statistiques, il y en a un certain nombre, donc il faut qu'il y ait le personnel ad hoc. Et puis, les moyens pour le parquet de pouvoir traquer tous ces gens-là qui, évidemment, sont cachés et qu'on aille les chercher là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont
Merci beaucoup, Maître Chantal, pour votre intervention. En gros, vous souhaitez qu'on puisse donner plus de moyens à la justice, mais aussi vous pensez à un tribunal hybride, hein, des tribunaux hybrides, ce qui permettrait qu'il y ait éventuellement une juridiction mixte. Alors il peut y avoir, si on peut dire, du personnel national et international ensemble pour qu'ensemble puisse mettre fin à cette impunité. Merci pour votre proposition. Nous allons maintenant à l'ICACI. J'espère que Pompon, cette fois-là, est au téléphone. On a pu le recontacter. Bonjour, Pompon.
Bonjour, madame Marie-Chantal Oumba, et bonjour à tous les auditeurs de la radio CATI.
Oui, Pompon de l'ICACI, quelles sont vos propositions pour lutter contre cette impunité, surtout liée aux violences sexuelles?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole une fois de plus, malgré les différents soucis. Bon, ce que je veux dire à mon niveau comme contribution, la responsabilité de la lutte contre l'impunité aujourd'hui en RDC est partagée à deux niveaux. D'abord au niveau du gouvernement lui-même avec sa mauvaise politique et de deux au niveau de la mentalité des Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire quand nous prenons au niveau du gouvernement, c'est-à-dire j'ai toujours déploré, quand j'interviens souvent, je vous dis que si j'aime dire la réalité et ce qui se passe, le gouvernement congolais n'a pas une bonne politique, surtout en matière de la justice. Vous voulez demander, j'ai toujours évoqué beaucoup de fois la théorie de la carotte et du bâton. Il faut avoir la motivation, c'est celle qui a la base de toutes choses, pour le bon fonctionnement et de toutes choses. C'est-à-dire, vous demandez à un magistrat d'appliquer une stricte
interprétation de la loi.
Mais il faut refuser de doter des moyens pour qu'il puisse se débarrasser de toutes les parasites qui peuvent amener quand même à son mauvais fonctionnement. Nous attendons l'exercice du budget, le vote du budget 2011. Mais il faut qu'on puisse avoir quand même une part assez quand même logique qui peut amener à un bon fonctionnement.
S'il vous plaît, Pompon. s'il vous plaît, comprendre, il faut qu'on puisse échanger. Nous parlons ici, ce qui nous permet aujourd'hui d'échanger, ce sont vos propositions. C'est vrai que la situation est telle que vous la vivez à l'ICATI, mais allons-y, s'il vous plaît, aux propositions. Vous avez fait allusion au budget, peut-être des propositions disant faudrait-il donner plus des moyens à la justice en augmentant sa part dans le budget. Allons-y aux propositions, pour fond.
Mais autre que le changement de la mentalité.
Alors,
vous allez voir.
En tout cas, Pompon, là, on n'arrive pas à s'entendre. Peut-être que plus tard, on pourra vous rappeler pour savoir un peu quelles sont vos propositions à partir de l'ICATI. Nous donnons directement la parole à Arnold de Kinshasa pour qu'il puisse donner aussi ses propositions avant que nous puissions écouter notre invité qui est Monsieur Polycarpe Mongoulou, qui est sénateur, mais aussi ancien procureur général de la République. Arnold, quelles sont vos propositions?
Oui, merci madame pour la parole. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire le sénateur Mongoulou, que je connais personnellement, et je salue aussi en passant. Madame, je sais que vous avez besoin de propositions. Je vais parler à deux niveaux. Il y a d'abord l'intimité, et particulièrement ce qui concerne les viols et tout ça sur le plan sexuel, et il y a l'impunité en général. Alors, ce qui concerne les viols sur le plan sexuel, moi je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un phénomène qu'on remarque au niveau surtout des petits volants où il y a des groupes armés sur le site. Là, je crois que c'est la responsabilité du gouvernement qui doit renforcer donc les systèmes de sécurité pour essayer de protéger les personnes et leur bien. Ça, c'est du côté de la mer. Il y a aussi la prévention, parce que dans les milieux urbains où il règne un peu de... Il y a un peu la paix, par exemple, c'est ça, et partout. Il y a la prévention aussi que nous devons, appliquer. Hein. Vous voyez, les viols là, il y a parfois... des pratiques qui accélèrent les viols et qui provoquent ça. Ici, je voudrais aussi me référer aux deux ministères qui existent. Il y a le ministère du genre, famille et enfants, et il y a le ministère de la justice. Il faut prévoir des émissions spécialisées pour éduquer les jeunes filles, éduquer aussi les parents, parce que les parents aussi ont une part de responsabilité en ce qui concerne ces phénomènes-là dans les grands centres où il règne apparemment la paix. Donc ce sont des comportements accoutrements. Ça aussi, il faut que des émissions spécialisées pour qu'on arrive à éduquer un peu nos jeunes filles et la population féminine. Mais en ce qui concerne l'impunité en général, bon, je crois que le sénateur Mongoulou a dit, il a bien parlé, parce que ce ne sont pas les lois elles-mêmes qui m'ont fait une fois votées et c'est fini, c'est parti, on met fin à l'impunité. Non, il faut l'appliquer. Et c'est là où se trouvent tous les problèmes. Donc, nous avons l'impression que l'exécutif, en ce qui concerne la justice, ne fonctionne pas normalement. Donc, il faut qu'on mette beaucoup de temps pour organiser notre appareil judiciaire. Regardez à l'époque de M. Oradi-Tabila. Vous savez qu'on avait institué des commissariats de proximité, la police, tout ça. Mais vous savez, si vous venez, vous regardez comment fonctionnent tous ces commissariats. Vous devez avoir peur. Hein? Hier, nous, on pensait que c'était comme se rapprocher des justiciables, c'était pour nous et la sécurité, mais maintenant, c'est le contraire. Vous pouvez avoir des problèmes comme ça à la maison, vous allez là-bas, mais ils n'interviennent pas. Ils allaient toujours des prétextes, ils n'ont pas les moyens, et je ne peux pas aller là-bas, il n'y a pas quelque chose. Et je crois que le sénateur Mongoul a raison, il faut que le gouvernement s'y envoie. Il faut organiser notre appareil judiciaire, il faut qu'on mette les moyens.
Bon, merci Arnold pour votre intervention à partir de Kinshasa et nous avons aussi Serge de Bounia qu'on a pu recontacter. On va le prendre tout juste après. Toute sa passion qui puisse aussi suivre les autres aussi. Madame Marie-Madeleine Kalala qui est au bout du fil, le temps qu'on donne la parole à notre invité qui peut d'abord réagir sur cette seconde série des pros des avis de nos auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Bien, monsieur le sénateur, encore une fois, vous avez suivi toujours des moyens qu'il faut octroyer au secteur de la justice. Même il y a des réformes, il y a des lois qui sont au niveau du Parlement en train d'être discutées pour pouvoir reformer cette justice. Mais autant de moyens, est-ce que vraiment avec le budget que nous avons, qui est presque de 5 milliards pour l'année en cours, est-ce que ça peut suffire pour donner une place assez grande à la justice, tant qu'il y a aussi l'éducation, il y a la santé, et ainsi de suite. D'où tirer ces gros moyens?
Oui, nos moyens sont limités par rapport à nos besoins. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'il faut déplorer ici, c'est qu'on ne programme pas ce qu'il faut faire pour redresser la justice. Ça tombe un peu comme... Restez dans la soupe, les jours où ça vous prend, vous dites que vous engagez des gens, l'autre jour, vous cherchez des voitures pour des magistrats, l'autre fois, quand il y a une aide quelque part, on réfectionne deux ou trois bâtiments, ce n'est pas comme ça que nous pourrions...
C'est tout un programme,
Il faut planifier, on va commencer par où, on va progresser comment, à court, à moyen et à long terme. Ensuite, il y a ce que je n'ai pas dit ici, c'est que il y a des petits mécanismes qui font que la justice, qui est un pouvoir indépendant, puisse se contrôler à l'intérieur de lui-même.
Mmh.
Et ce contrôle-là, il est chose organisée avec des moyens qu'il faut. Un simple exemple. Vous voulez des jugements corrects qui combattent la corruption. Il faut qu'on revienne au système où un jugement, lorsqu'il est rendu par le juge, il est dactylographié immédiatement. Donc, il faut des papiers, il faut le personnel, il faut des machines pour faire tout ça.
Mm-hmm.
Et lorsque le jugement est dactylographié, l'État qui va délivrer les copies de ce jugement va encaisser de l'argent. Donc, c'est une source de revenus. Ensuite, des chercheurs, ils vont faire publier les jugements qui sont intervenus dans les revues spécialisées, les revues juridiques. On critique le travail du magistrat d'une façon scientifique. Aucun magistrat ne voudra que son jugement qu'il a rédigé soit critiqué. Donc, il va faire un travail correct. Chaque fois qu'il rédige un jugement, c'est dans la perspective que ce jugement sera critiqué. À ce moment-là, même s'il a tendance à demander la corruption, mais il va se retenir, il va dire, mais écoutez, est-ce que je vais tout simplement mettre en jeu ma personnalité à cause de cet argent? Donc, c'est un système de contrôle interne, mais il faut des moyens.
Et puis, même si on arrivait quand même à ce genre de publication, ça oui. pourrait permettre d'avoir moins de
statistiques.
Parce que pour l'instant, il est même difficile de se rendre dans un tribunal et leur demander combien de présumés auteurs de viol vous avez. Donc, c'est vraiment assez difficile pour avoir des chiffres en l'air.
Mais ça existait, ça, dans toutes les instructions que le système judiciaire dispose, dont le système judiciaire dispose. Chaque fin du mois, chaque tribunal devra faire les statistiques de tous les jugements. Par magistrat, d'ailleurs, combien de jugements il a rédigé, tout ça. Mais non, on ne sait pas, il n'y a plus de contrôle interne et tout ça, tout simplement parce que ils vous disent, mais nous n'avons pas de papier pour faire tout ça.
On n'a pas d'ordinateur,
on n'a pas de papier, etc. Même des registres, madame. Il manque même des registres pour inscrire la liste des dossiers qui entrent. Les registres, là, ils ont été codifiés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel cahier comme on le fait aujourd'hui. Donc, tout ce tas de choses, de petites choses-là, il faut qu'il y ait une justice de qualité et une justice qui se contrôle d'elle-même n'existe plus. Donc, il faut qu'on
apparemment, tout est à refaire.
Mais normalement, il faut absolument le faire.
Mm-hmm.
Absolument, parce que sinon, nous sommes en train de dégringoler et il y a un moment où il n'y aura plus de justice du tout. Parce que quand vous parlez de l'impunité, vous visez quoi? Tout simplement, où il n'y a pas de justice du tout, où il y a une justice qui est rendue à plusieurs vitesses, c'est-à-dire que c'est expéditif, si on est motivé, c'est tardif, lorsque si on n'est pas motivé. Ou alors, lorsque les gouvernants veulent que vous ne vous prononcez pas, et alors on ne rend pas jugement du tout, on accepte.
Mais c'est éclaté.
Voilà. Non, on ne prononce pas. Il est toujours en cours. voyez, c'est ça l'impunité. Donc, c'est ça l'analyse interne de l'impunité. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre au point et ce ne sont pas.
Et là, à nouveau, on devra faire recours à l'aide extérieure parce que
si tout à fait, si nous programmons nous-mêmes et que nous disons que chaque année, nous dépensons autant pour la justice et voilà le plan de travail. L'extérieur pourra peut-être nous aider pour accomplir l'une ou l'autre chose lorsque ça les intéresse, mais nous-mêmes, nous aurons pris conscience de réformer notre propre justice, mais pas de la manière que nous le faisons maintenant.
Nous avons écouté Serge, Madame Marie-Madeleine et Thomas de Chitapa.
Parole aux auditeurs.
Nous commençons par les dames, hein, excusez-nous, hein. Nous commençons toujours les dames, donc Serge, excusez-nous, nous allons d'abord écouter Madame Marie-Madeleine Kalala, qui est ministre honoraire des droits humains ici en RDC. Bonjour Madame.
Bonjour Marie-Chantal.
Nous sommes en pleine discussion dans la lutte contre l'impunité, surtout concernant les viols, parce qu'en tout cas en RDC, on ne fait que compter les cas de viols. C'est rare qu'on apprenne qu'il y a eu un auteur qui est condamné. Et souvent, il y a des libertés provisoires, on ne sait plus comment ça se poursuit. À votre avis, que faut-il faire pour lutter contre cette impunité?
Ben, écoutez, Marie-Chantal, je pense que le constat qui a été établi par le sénateur et l'avocat général sont exacts, mais je voudrais, au regard de la complexité du problème, relativiser un petit peu ce qui est dit. Nous ne pouvons pas toujours nous réfugier derrière les moyens matériels pour justifier l'impunité qui existe dans ce secteur et dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Je pense qu'il est grand temps qu'il y ait un sursaut de dignité de la part de notre magistrature, car il est vrai qu'à l'est du pays, il est difficile. Peut-être à l'Est ou ailleurs d'ailleurs, parce que je pense que ce problème ne touche peut-être pas à l'Est du pays. Là-bas, c'est beaucoup plus intense, d'accord, mais les mêmes cas se produisent à l'Ouest. Et donc, en province, il est peut-être difficile d'avoir accès à la justice. Alors, revenons à ce problème de mental, je voudrais prendre pour exemple Kinshasa. Kinshasa ou dans les banlieues de Kinshasa, dans le faubourg de Kinshasa où existe le phénomène Kuluna, il existe de nombreux cas de violences sexuelles. Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse au niveau de la justice. Ce qui est dommage, c'est que lorsque les victimes saisissent les mécanismes judiciaires, ça se termine par des transactions. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. On décourage les victimes. Alors moi je pense que le problème se situe à deux niveaux. Il y a ce problème bien sûr de précarité de la vie, des conditions de vie de nos magistrats, mais il y a aussi un problème d'honneur et de justice de leur part. On ne va pas me dire que dans les cabinets de Kinshasa, on manque de papier pour pouvoir verbaliser, entendre, instruire le dossier. Il suffit d'aller à la prison centrale pour trouver le nombre de personnes en détention pour des délits mineurs. Il y a des femmes qui croupissent là-bas pour des délits de $50. Et lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, on nous parle d'un problème de comportement et qu'il faut moraliser les femmes. Alors j'en viens à cette intervention-là. Je pense que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'homme doit pouvoir se maîtriser. Les femmes qui sont violées à l'est du pays, ce n'est pas parce qu'elles portent des collants ou des jeans qui moulent leur forme. Je ne cautionne pas ce genre de tenue, mais je pense qu'il ne faut pas prendre cela comme prétexte pour justifier les violences sexuelles. Les femmes qui sont violées jour après jour à l'est du pays portent des pagnes et sont vêtues de manière décente. Donc ce discours-là, nous ne voulons pas, parce qu'il est de nature à fragiliser la lutte contre l'impunité qui règne dans ce secteur. Alors, je voudrais également insister sur le fait, le sénateur Mongoul a beaucoup insisté sur les conditions des magistrats. Et l'avocat général, pour lui, a parlé justement de la moralisation des magistrats. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais j'estime qu'au-delà de la moralisation des magistrats, il faudrait que la sanction puisse aussi exister. Le Conseil supérieur de la magistrature est suffisamment outillé pour suivre ce genre de choses. Donc voilà, Marie-Chantal, le piste que je voudrais aborder, mais je soutiens le sénateur Mongo lorsqu'il dit que ce sujet est tellement complexe qu'il mérite d'être traité pendant plusieurs jours et non pas en une heure, mais je vous félicite quand même de lancer le débat au niveau des jours.
Merci beaucoup, Madame Marie-Madeleine Kalala. Ce qu'on peut retenir aussi de très important, c'est ce sursaut de dignité. Ce que je vous avais dit. Merci pour votre intervention. Serge de Bounia, bonjour. Serge, encore une fois, il est parti. Donc, Thomas de Chicapa, vous avez la parole. Bonjour.
Oui, bonjour, Madame Marie. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui, quelles sont vos propositions pour pouvoir lutter contre l'impunité? Thomas?
Merci beaucoup, madame. Mm-hmm. Je voudrais d'abord commencer à vous dire que la ville de Chicapa est une ville réputée aux violences sexuelles ou à la violence sexuelle.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que nous remarquons avec beaucoup de regret? La stupidité du magistrat. La stupidité du magistrat, je répète. Cela veut dire quoi? Dans la prison centrale de Chicapa, la majorité des détenus, ce sont les jeunes. Et la plupart, ce sont les jeunes féminins.
Mmh.
Or, il y en a des gros poissons qui violentent, qui violent le fils, mais qui sont relaxés après avoir payé 500 dollars ou 1000 dollars. Je vous donne un exemple très typique. Dans la colline de Dibumba. Dans la colline de Dibumba, il y a un monsieur réputé violeur, mais toute fois qu'il y a changement au parquet secondaire, le monsieur est promu à corrompre les hommes de justice, c'est-à-dire les magistrats, à faire connaissance avec eux, puisque c'est quelqu'un qui a un peu de moyens. C'est un exemple très typique. Et alors, la proposition pour réhabiliter ou punir le viol ou la violence, il serait mieux de faire le suivi, l'inspection. Il y a problème d'inconscience professionnelle dans le chef de nos magistrats à Chicapa. Madame?
Oui.
Vous parlez?
Oui, donc Thomas, puisque là, je voulais vous remercier parce que nous cheminons vers la fin de cette émission. Merci pour votre intervention, Thomas. Vous revenez un peu sur la prise de conscience même des magistrats dans leur travail, qui est assez délicat, surtout en cas de viol, parce que violer une femme, c'est vraiment détruire toute sa vie et même de toute une société. Merci, Thomas de Chicapa, pour votre intervention. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur le sénateur, vous avez encore une fois suivi nos auditeurs, même l'intervention de Madame Marie-Madeleine Kalala, où elle dit que les moyens qu'on emploie souvent, qu'on déploie plutôt pour traiter peut-être un sujet d'escroquerie, un dossier d'escroquerie, on peut aussi les utiliser pour un dossier de viol. Donc ça revient presque au même, et apparemment, il y a certaines préférences pour ceux qui vivent.
Oui, madame, je connais très bien maître Marie-Madeleine Kalala, mais je voudrais tout simplement lui rappeler que les dossiers, les papiers, les autres documents qu'on utilise dans ces cas-là, on les demande à celui qui dépose plainte. Quand vous venez déposer plainte, on vous demande d'amener l'argent, d'amener les papiers, tout ça, ce qui n'est pas normal. Et ceux qui ont de l'argent, parce que comme ça, je disais la justice de la fête des clients, peuvent amener l'argent et tout ça.
Effectivement, et leur dossier passe de place.
Effectivement. Donc, c'est ça ce que je voulais lui donner comme réponse. Mais je voudrais tout simplement, pour conclure, dire que dans notre pays, il faut qu'on cesse les histoires dont on parle, c'est-à-dire des hommes forts. Il faut plutôt avoir des institutions fortes.
C'était même le discours qu'on a eu, le discours au niveau de académique, je pense, au Parlement,
voilà.
Le président Sarkozy ou bien le président Obama,
voilà,
au niveau de
voilà. Il faut plutôt des fortes institutions et non pas personnalisées. Et si on commence à personnaliser, on n'y arrivera pas. Ensuite, notre appareil demande, exige une réforme profonde. Mais il faut une réforme méthodique. Pas à chose,
un coup de tête. Coup de,
voilà. Ensuite, il faudrait les programmer. Et de manière à ce qu'on ait des interventions qui viennent avant d'autres et ainsi de suite et qui se complètent. Ce n'est que comme ça que petit à petit, nous pourrions mettre au point un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est capable d'enrayer les causes de l'impunité. Ce n'est que comme ça que nous pourrions sortir. Mais si nous patrouillons dans le cas où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'il y a recrudescence de viol, nous mettons au point une loi et que nous avons difficile à appliquer, demain, lorsqu'il y aura les choses, les coulounes, on va faire la même chose. S'il y a recrudescence de détournement des deniers publics, il faut une nouvelle loi, il faut commencer à faire, nous n'y arriverons pas. Voilà comment je peux conclure.
C'est conclu, et plutôt ces réflexions peuvent se faire au niveau du ministère, ou peuvent aussi avoir des propositions, par exemple, de la société civile, même, par exemple, au niveau du Parlement, où vous pouvez faire des propositions.
Non, madame, tout ça c'est prévu. Chaque pouvoir peut prendre quelques jours de rencontres pour pouvoir réfléchir sur l'appareil qu'il est en train de diriger. Nous, à notre époque, on le faisait. On demandait l'avis de peut-être du ministre, mais tous ceux qui étaient intéressés dans la justice venaient pendant 2, 3, 4 jours. On réfléchissait sur la justice, on prenait des résolutions, on faisait passer ça sous forme de budget exécutoire et on se mettait à réformer. C'est-à-dire qu'on était à l'écoute des justiciables de la population. Après les avoir écoutés, on fait l'autocritique et on propose des solutions. Et ces solutions sont déposées sur les bases des autres institutions de l'État, soit du Parlement, soit de l'exécutif, madame.
Autant de propositions. Merci, monsieur Mongoul, pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénateur, mais aussi ancien procureur général de la République. Merci beaucoup. Donc, nous prenons rendez-vous demain pour une nouvelle émission Parole aux auditeurs. Nous allons parler de la lutte contre le VIH-SIDA, l'aspect accès aux entrées des produits. Vous pouvez réagir dès à présent pour savoir comment ça se passe chez vous et que faire pour accéder facilement aux antiprétroviraux. À la prochaine.